Chapitre 11. Alragan. Les cinq compagnons se réveillèrent en même temps et découvrirent ensemble, en sortant de la grande cabane confectionnée par les Sylves, qu'ils n'étaient plus dans la même clairière que la veille.
J'ai rêvé complètement? Ou vous aussi vous avez vu un décor très différent hier?
Demanda Mjoln, déroutée, en descendant la dernière marche. Aléa, qui avait rejoint la cabane après le départ des Sylves, sourit au nain et le rassura tendrement. « Non, mon bon jeune, tu n'as pas rêvé. Les Sylves sont partis, c'est tout. Mais nous sommes toujours au cœur de Brocélia. » Mjoln tira sur le bout de sa barbe en levant les sourcils.
« Oh, mais ma barbe, elle, est toujours blanche. »
Aléa passa sa main sous le bras du nain. Les Sylves avaient laissé quelques fruits, du pain, du lait et du miel sur une pierre ronde, entourée de trois troncs couchés. Ils s'assirent tous les cinq autour de la pierre, les uns en s'étirant, les autres en se frottant les yeux, extirpés d'un sommeil bien profond. Ils n'avaient pas si bien dormi depuis fort longtemps.
« C'est à n'y rien comprendre !»
grommela le nain.
« Mais ça n'a pas l'air de t'étonner, on dirait. Bah, tu commences à m'inquiéter, ma fille. Ahem. Et l'arbre de vie, alors, tu l'as vu ?»
Je vous raconterai ça plus tard. Profitons d'abord de ce petit déjeuner, suggéra Aléa. Mais soudain, avant même que quiconque ait eu le temps de goûter au mets des Sylves, Galliad se dressa d'un bond.
Ils sont là.
Au même instant, de l'autre côté de la clairière, quatre guerriers à l'imposante carrure, le buste ceint d'une armure de métal sombre, apparurent sur de grands chevaux noirs. Les Érylim. Lentement, les quatre colosses dégainèrent leurs épées en s'approchant. On devinait à peine leurs yeux obscurs sous la capuche épaisse de leur cape. Mais il n'y avait pas de doute. C'était Aléa qu'ils regardaient, et personne d'autre.
« J'ai bien peur qu'il nous faille ajourner ce petit déjeuner, » déclara Galliad en dégainant à son tour. Puis d'une voix grave et tranchante, il donna des ordres simples. « Aléa, cache-toi. Et vous aussi, Face. Mjoln, prends ton épée. »
Mais ni Face ni Aléa n'obéirent. Les quatre cavaliers arrivèrent bientôt devant la cabane avec une lenteur menaçante. Galliad ne leur laissa pas le temps d'approcher davantage et fondit sur eux en brandissant sa large épée. Mjoln l'imita aussitôt et courut à la charge à ses côtés. Ensemble, ils lancèrent le cri de guerre des ancêtres du nain.
« Alragan !»
Face sortit son arc et ses flèches et Félim prit la main d'Aléa.
« Défends-toi, petite, et ne t'occupe pas de nous !»
Il la regarda droit dans les yeux et ajouta en murmurant
« Seule ta vie compte, Aléa !»
L'instant d'après, le corps du druide se transforma en flamme, comme Aléa l'avait déjà vu faire face aux Gorgounes. La jeune fille recula, effrayée, puis elle essaya de se calmer et se dit qu'elle devait faire quelque chose, elle aussi. Elle se laissa tomber sur les genoux, à la recherche du Saïman. Elle avait besoin du contact de la terre et de trouver l'équilibre pour se saisir de son pouvoir. Si seulement Félim avait pu lui en apprendre davantage. Les quatre Érylim descendirent de leurs chevaux et les trois premiers accueillirent Galliad et Mjoln avec leurs épées alors que le plus grand, Sultor, se tenait en retrait. Les lames des trois hommes sombres étaient parcourues de petits éclairs bleus qui firent d'abord reculer le nain. Galliad donna un premier coup d'estoc, puis un large coup de taille. Les cavaliers reculèrent d'un pas. Une flèche de Face alla se planter dans un arbre derrière eux. Le combat s'engagea alors dans la rage et la confusion. Le bruit des épées qui s'entrechoquaient se mêlait aux cris des uns et des autres. Mais Sultor, lui, ne bougeait pas. Il attendait. Félim ne perdit pas un instant et fondit sur lui. Mais le prince des Érylim l'évita et se transforma à son tour en une gigantesque flamme.
« Maol Morda lui a donné beaucoup de pouvoir, »
pensa Félim, alors qu'il préparait une nouvelle attaque. Le druide se précipita encore sur son adversaire qui de nouveau esquiva, puis une troisième fois. À chaque nouvelle attaque, Sultor se rapprochait un peu plus d'Aléa, qui était toujours à genoux devant la cabane.
« Je dois trouver le Saïman, » pensait la jeune fille en serrant les poings. « Il est là, dans la terre. » « Je suis Kaïliana. Je suis la fille de la terre. » À côté d'elle, Faïs décocha une nouvelle flèche qui, cette fois, traversa l'épaisseur de l'armure et atteignit l'un des cavaliers en plein cœur. Celui-ci s'écroula au sol, alors que les deux autres se battaient avec Galliad. Le magistel donnait toute sa force dans chacun de ses coups. Il savait que ses rivaux bénéficiaient d'une arme puissante et qu'il devrait se surpasser pour les vaincre. Il dut attaquer et esquiver deux ennemis en même temps jusqu'à ce que Mjoln parvienne enfin à entrer dans le combat, après avoir achevé au sol celui qui avait reçu la flèche dans le cœur. Le nain avait peine à porter ses coups d'épée, tant sa lame était courte face à celle des deux cavaliers. Il fut très vite dépassé par les événements, et malgré les leçons d'Erwan, reçut un violent coup de lame à la base du cou, qui le projeta au sol, inconscient. Aussitôt, Aléa fut emplie d'une rage folle et perdit complètement le contact du Saïman. Elle se leva, prit l'épée qu'Erwan lui avait appris à manier et fondit sur les deux cavaliers en hurlant. Galliad profita de son arrivée pour concentrer ses efforts sur un seul des cavaliers qu'il parvint à faire reculer. Aléa était portée par la fureur et se battait avec force contre le second cavalier. Elle se rappela les feintes d'Erwan et s'appliqua à varier ses attaques pour surprendre l'adversaire. Un contre, un appel, une estocade, un saut sur le côté. Elle laissait sa mémoire et sa rage guider son épée, ses jambes et ses bras dans le combat. Mais le cavalier était plus fort et gagnait du terrain. Si elle ne trouvait pas un moyen de le repousser, elle allait finir par recevoir un mauvais coup. Entre deux passes, la jeune fille prit sa respiration et se lança sur le côté pour tenter la botte secrète d'Erwan. Elle se souvenait de ses paroles. « C'est le plus souple et le plus fort des deux poignets qui l'emporte, Aléa. Il faut plier, mais rester ferme. » Sa lame glissa le long du gant de cuir noir, et d'un geste brusque du poignet, elle fit perdre prise à son adversaire. L'épée fut projetée loin derrière lui. Aléa aurait dû en tirer parti pour fendre son adversaire, mais elle était si étonnée elle-même qu'elle attendit un instant de trop. Le Hérilim en profita pour sauter en arrière et récupérer son arme qui s'était plantée dans le sol. Il courut alors vers la jeune fille en poussant un terrifiant cri de haine. Aléa se campa sur ses deux jambes et alors qu'elle tentait une esquive au dernier instant, elle prit la lame en pleine hanche. Elle hurla de douleur et s'écroula à terre. Un peu plus loin, Félim continuait de retenir Sultor. Leurs flammes s'affrontaient dans des explosions de lumière et brûlaient tout autour d'eux. Le druide, accaparé par son combat, ne vit pas même Aléa tomber au sol. Le cavalier noir s'approcha de la jeune fille en levant son épée au-dessus de sa tête, mais il aperçut au même instant Faïs, qui armait une flèche quelques mètres plus loin. Il se précipita alors sur la barde, laissant le corps d'Aléa au sol, et abattit son arme sur Faïs en évitant la pointe de sa flèche. La jeune femme n'eut pas le temps d'esquiver et prit le coup d'épée sur l'épaule. Elle s'effondra à son tour et perdit connaissance. Le cavalier se retourna lentement vers Aléa et marcha vers elle d'un pas déterminé. Ses ordres étaient précis. « Tuez la petite peste !» Mais alors qu'il s'apprêtait à abattre son épée sur la jeune fille, il reçut un violent coup d'épée sur la nuque et sa tête, tranchée, s'envola dans les airs en tournoyant. Le corps du cavalier s'écroula lourdement, laissant apparaître derrière lui Erwan, le fils de Galliad, qui poussa à son tour un cri de rage. Alors qu'Aléa se relevait péniblement, incrédule, Erwan se précipita aux côtés de son père qui luttait encore contre le troisième cavalier.
Qu'est-ce que tu fais là, mon fils ?
Ne put s'empêcher de crier Galliad alors qu'il esquivait une attaque. En guise de réponse, Erwan riposta à sa place et enfonça son épée dans le ventre du Hérilim, qui lâcha son arme et tomba à genoux, s'agrippant à la lame qui le tuait dans un dernier sursaut de fureur. Un bruit sourd. Galliad et Erwan eurent à peine le temps de se retourner. Ils furent projetés au sol par l'explosion qui venait d'éclater derrière eux. Quand ils se relevèrent, ils mirent du temps à comprendre ce qui était arrivé. Il y avait de la fumée partout alentour. À travers les nappes brumeuses, ils virent apparaître la longue cape noire du prince des Hérilim. Sa capuche était retombée sur ses épaules et l'on pouvait voir son visage mêlé de chair vive et de métal anthracite. Dans le noir de ses yeux se lisait un sourire arrogant. À ses pieds, une forme sombre et immobile se dessina lentement. Galliad serra les poings. Il espérait se tromper. Ce n'était pas possible. Pourtant, quand la fumée eut complètement disparu, il n'eut plus aucun doute. C'était le corps de Félim, étendu à terre. Et puis dans un souffle, la flamme dans l'esprit de Galliad s'éteignit, comme celle d'une bougie soufflée par le vent. Et tout à coup, il n'y avait plus rien. Le lien s'était éteint. Galliad, accablé, comprit dans l'instant. Félim, son maître, était mort. Imala erra tout le matin au cœur de la forêt. Elle était épuisée, blessée, et elle avait faim. Mais elle avait échappé au vertigo, et cela seulement comptait. C'était une nouvelle leçon des lois de la nature. Après avoir été chassée par sa meute, elle avait été chassée par les vertigo. À l'une et aux autres, elle avait fait confiance, à tort. Elle savait maintenant qu'elle était seule. Elle était désespérée, mais elle en retirait aussi une force nouvelle, la force du savoir. Dans sa solitude, face au monde, Imala apprenait. À la tombée du jour, elle sentit soudain qu'elle entrait sur le territoire d'une meute. Elle hésita un moment, tournant sur elle-même, puis elle reconnut l'odeur gravée au fond de sa mémoire. Au hasard de sa fuite, elle était revenue sur le territoire de sa meute d'origine, et l'odeur qu'elle pouvait sentir était celle d'Aena. Son instinct de louve la poussa en avant. Elle se mit à courir là où elle savait qu'elle trouverait la meute. Elle galopa dans la nuit, la tête haute, portée par un élan intérieur qui ne pourrait s'éteindre avant d'avoir atteint son but. Et elle arriva enfin devant la tanière des loups. Les mâles la sentirent arriver et se dressèrent devant elle. Ils grognèrent en montrant les crocs, les babines retroussées. Mais Imala n'avait plus peur. La louve avait changé. Elle avait vaincu un vertical. Elle s'avança sans hésiter au milieu de ses congénères qui comprirent à sa démarche et à son odeur qu'il valait mieux la laisser passer. Sans doute la reconnurent-ils, et ils s'écartèrent devant elle en rentrant les crocs. Imala savait où elle allait. Là, cette tanière. Elle poussa un grognement, et la dominante de la meute se leva aussitôt. Aena. Les deux louves se tinrent l'une en face de l'autre, en se défiant du regard. Mjoln reprenait peu à peu conscience, et ce qu'il vit ensuite dépassait son entendement. Le temps sembla s'arrêter. Les bruits et les mouvements ralentirent et s'éteignirent progressivement. Il crut d'abord qu'il perdait de nouveau connaissance. Pourtant, devant lui, il vit Galliad, Erwan et Aléa arrêtés dans leur course comme par magie. Leur corps s'était figé alors qu'ils s'élançaient vers le Herilim. Mjoln, lui-même, ne pouvait plus bouger. L'instant d'après, il vit les silhouettes de ses trois compagnons se troubler, puis disparaître totalement avec celles du cavalier. Quand enfin le temps parut reprendre son cours, le nain se dressa d'un bond. Le sang coulait de son cou, et la coupure profonde lui faisait atrocement mal. Ses jambes tremblaient. Mais il voulait être sûr qu'il n'avait pas eu une hallucination. Il fit quelques pas en avant, se frotta les yeux, puis il dut se rendre à l'évidence. Aléa, Galliad et Erwan avaient bien disparu, en même temps que Sultor. Il pressa sa main sur son cou pour retenir le sang qui coulait de plus en plus. Il avança en boitant, l'esprit embué. Faye s'était étendue là, à quelques pas, dans un profond coma. Il marcha jusqu'à elle et prit sa main. Il sentit battre le pouls de la barde et poussa un soupir soulagé. Mais un peu plus loin, il vit le corps immobile de Félim. Quand il arriva près de lui, il comprit que la vie avait quitté le druide, et ses yeux s'emplirent aussitôt de larmes. Ils sont dans le néant. Sultor s'est servi du manite de Jar pour les mener là où il sait qu'ils seront affaiblis. Par la peur, l'inconnu et le poids du néant de Jar partout autour d'eux. Ils ne connaissent pas cet endroit. Ils ignorent ses règles. Il va les tuer tous les trois, le magistel, son fils et la jeune fille. La peste, l'infamie. Il l'amènera morte à son maître. Aléa s'est arrêtée brusquement. Elle ne voit plus rien autour d'elle que Galliad, Erwan et le cavalier. Sultor. C'est lui qui les a amenés ici. Elle le sait. Mais quel est cet endroit? Il n'y a rien, pas de matière, pas de lumière, pas de distance, pas de force, de poids. Pourtant, elle est sûre de connaître ce lieu. La seule différence, c'est le décor qui l'entoure. Mais oui, elle sait où elle est, dans le monde des rêves, où Oberon l'avait appelée. Maintenant, elle comprend. Sultor approche. Elle doit l'arrêter. Le Saïman est encore éteint au fond d'elle, mais Sultor, lui, s'approche. Il est là. Il va penser leur mort. C'est ainsi que l'on tue ici, par la pensée. Il n'y a plus d'actes, que des pensées. Elle doit l'arrêter. Mais Galliad et Erwan ne comprennent pas. Ils ne sont pas comme elle. Ils n'ont pas eu l'expérience de l'arbre de vie, ni aucun de ses rêves. Ils essaient de se débattre, mais leurs corps ne répondent pas. Ils tentent de hurler, mais les sons ne sortent pas. Ils refusent au fond d'eux-mêmes la réalité de cet endroit et c'est ce qui les emprisonne. Elle doit les aider, accaparer leur attention. « Je t'aime. » Erwan semble avoir entendu sa pensée. Il la regarde, médusé. Il a entendu, mais il ne comprend pas. « Je t'aime, Erwan. Merci d'être venu. Maintenant, ne bouge plus et pense. Pense le monde autour de toi. Pense ton père. Pense-le avec toi. » Erwan ferme les yeux. Il essaie de comprendre. Les règles ne sont plus les mêmes. Il n'y a plus de paroles. Les pensées se confondent. Je suis avec toi, Aléa. Alors pense ton père, pense-le avec toi, et partez loin d'ici, je m'occupe du cavalier. Erwan se concentre. Galliad, lui aussi, commence à comprendre. Nous sommes vraiment ici? Aléa le rassure, mais le temps presse. Sultor commence à envahir leur espace par sa pensée. Vous devez fuir avec votre fils, Galliad. Vous ne pouvez rien ici. Je suis la seule à pouvoir faire quelque chose. Par pitié, pour l'amour que je porte à votre fils, par la Moira. Pensez-vous loin d'ici. Fuyez par la pensée. Je vous retrouverai. C'est Erwan qui répond. Aléa, je suis venue te prévenir. Le conseil a banni Félim et envoyé 3 druides à votre poursuite avec leur magistèle. Je suis arrivée avant eux, mais ils sont là. J'étais venue pour ça, Aléa, te protéger. Adieu, Erwan, et merci. Je vous retrouverai, mais maintenant, fuyez. Sultor fond sur Aléa, fond en elle. Meurs, hurle-t-il. Mais Aléa a trouvé la voie du Saïman, même ici, et elle repousse la pensée meurtrière de son assaillant. Sultor paraît surpris. La petite semble comprendre le Jar. Il doit modeler le néant. Contre elle, il sait le faire. Il dresse des murs autour de la peste. Sur les murs, il pense des lames effilées. Puis il referme sur elle cette prison assassine, lentement. Et sous ses pieds, il fait venir le feu. Aléa voit les murs qui se referment. Il sait penser le néant. Il transforme mon espace. Je ne peux pas contre-attaquer ici. Il faut que je porte mon assaut autrement. Je dois nier son attaque par la pensée. Non, je vais la retourner comme un gant. Créer le néant de nouveau autour de moi. Sultor voit l'espace qui se renverse. Son attaque a échoué. Il rompt sa pensée avant qu'elle ne le tue lui-même. Aléa ouvre de nouveau son esprit. Le Saïman est là. Elle sort de son corps. Elle se regarde. Elle sait que Sultor est derrière elle, mais elle se regarde. Elle essaie de comprendre le Saïman qui brûle en elle. Je dois arrêter de penser le Saïman comme une chose que l'on contrôle. Je suis le Saïman. Il est moi. C'est ainsi que je dois m'en servir, comme je me sers de moi-même. Il n'est pas en moi. Il est moi. Sultor voit la jeune fille qui s'éteint. Son âme a quitté son corps. Que fait-elle? Quelle imprudente! « Je ne vais en faire qu'une bouchée. » Il se projette vers Aléa. « Je suis Saïman. Aléa est Saïman. Je n'ai qu'à ouvrir les yeux. Je n'ai qu'à regarder les choses. Voilà. Je sais le monde. Ici, je sais le néant. Je sais qui est le cavalier. Il est Aïn Sultor, prince des Erilim, prince des voleurs d'âmes, le jeteur d'ombre. Il vient me tuer pour me porter à Maul Morda. Il n'est rien pour moi, qu'un obstacle. Je vais le tuer par lui-même. Je vais pousser jusqu'aux pensées de Maul Morda le cri de douleur de son serviteur pour qu'il apprenne à me craindre. Qu'il sache qu'après Sultor, c'est lui que je viendrai tuer. Je suis Sultor. Aléa se fond dans le corps du cavalier qui l'attaque. Elle entre dans chacune de ses veines, dans son esprit, dans son cerveau, dans son ventre, dans ses pensées. Elle se repaît de lui. Elle est Sultor. Et comme elle a retourné sa pensée tout à l'heure, elle pousse de toute son âme pour passer à travers lui, exploser chaque boyau, chaque bout de chair de l'ennemi dont elle s'est habillée. Soudain, Sultor pousse un cri inhumain. Sa tête va exploser. La petite peste est en lui. Aléa hurle en libérant toute sa haine. Le Saïman explose dans ses veines comme le cœur d'un volcan. Elle se projette hors de Sultor et le déchire d'un seul coup. Aéna bondit la première. La gueule grande ouverte, elle s'éleva au-dessus d'Imala, qui se dressa à son tour. Les deux louves se heurtèrent de front, les pattes avant cherchant à se poser sur les épaules de l'adversaire. Les grognements de rage et d'intimidation jaillirent d'un côté comme de l'autre, et les mâchoires claquèrent, cherchant à mordre. D'un coup de patte, Aéna fit perdre l'équilibre à Imala, qui dut poser un coussinet avant sur le sol. La dominante saisit aussitôt sa chance pour mordre son adversaire à la gorge. Mais Imala laissa son corps se courber dans le sens de sa chute, plutôt que de résister, et échappa ainsi au croc d'Aéna. Celle-ci sauta par-dessus le corps de la louve blanche pour tenter de l'attaquer par l'autre côté. Les autres membres du clan n'osaient pas intervenir. Pas même Eano, le dominant. Il regardait, inquiet, le combat sur le sol, où les deux louves se débattaient bruyamment dans un nuage de sable et de poussière. Imala parvint à repousser l'attaque d'Aéna d'un coup de ses pattes postérieures et se releva d'un bond. Les deux louves s'affrontèrent de nouveau face à face, museau contre museau, dressés sur leurs pattes arrière, formant une voûte gracieuse qui menaçait de s'écrouler à chaque mouvement de tête. Les blessures encore sensibles d'Imala la faisaient souffrir, et elle sut qu'elle ne pourrait résister longtemps à la force de son adversaire. Un instant, elle se dit qu'elle allait perdre le combat, et qu'Aéna allait la chasser de nouveau, ou peut-être même l'achever, devant les autres loups pour assurer sa suprématie encore davantage. Puis soudain Imala revit les images de tout ce qu'elle avait vécu depuis son départ. Les animaux qu'elle avait vaincus, les verticaux qu'il avait accueillis et ceux qu'il avait chassés. Et celui qui était mort, enfin, entre ses crocs. Et cette vague soudaine de souvenirs aiguisa son instinct de survie. Elle ne pouvait pas mourir. Elle ne voulait plus subir. Elle voulait dominer, au moins sa propre vie. D'un seul coup de rein, elle renversa Aéna sur le sol, et dans un concert de grognements furieux, elle attrapa sa gorge à plein croc. La dominante eut à peine le temps de hurler. Imala referma sur elle sa gueule ensanglantée. Elle aurait pu tenir ainsi jusqu'à ce qu'Aéna meure, mais elle sentit soudain les muscles de la dominante qui se relâchaient et ses pattes qui se levaient en signe de soumission. Imala donna un dernier coup de croc et lâcha prise, dressée au-dessus d'Aéna, qui respirait avec peine et perdait beaucoup de sang. Imala resta ainsi un long moment, posant un regard sur la meute autour d'elle. Puis dans un mouvement majestueux, elle se retira et disparut dans la forêt. Sous le regard terrifié de ses congénères. Elle aurait pu prendre la place d'Aéna au milieu des loups, la place de dominante. Mais la forêt l'appelait, et elle se sentait trop différente pour retourner dans une meute. Depuis le jour de son départ, elle savait même qu'elle ne pourrait plus jamais vivre avec eux. Elle galopa à travers bois, en s'enivrant de l'air du soir. Puis elle s'arrêta près d'un ruisseau, où elle s'installa pour la nuit. Avant de se coucher, elle poussa un hurlement magnifique et reçut en écho les hurlements de la meute. Il lui adressait un dernier adieu, et la louve blanche se coucha paisiblement. Elle était seule, mais au moins, elle était libre. Aléa s'écroula sur le sol au milieu de la clairière. Son corps était épuisé, mais le Saïman brûlait encore en elle. En un instant, elle comprit qu'il ne s'éteindrait plus jamais. Quand sa tête cessa de tournoyer, elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Mjoln était là, qui pleurait à côté du corps inerte de la barde. Elle n'est pas morte. Plus loin, les cadavres des trois cavaliers. Et devant la cabane, Félim. La jeune fille se releva péniblement et marcha vers le nain en pleurs. Mjoln leva la tête et eut un geste de surprise en voyant qui approchait. Il faillit tomber à la renverse.
« Aléa ?»
Il sécha quelques larmes d'un revers de sa manche.
« Tu es vivante ?»
murmura-t-il, incrédule. « Oui, » répondit simplement la jeune fille en venant près de lui. « Quelqu'un a-t-il touché au corps de Félim ?» Mjoln parut surpris et fit non de la tête, sans comprendre. Aléa se releva et marcha jusqu'au corps immobile du druide. Là, elle se mit à genoux avec des gestes gracieux. Comme guidée par des souvenirs qu'elle ne reconnaissait pas pour siens, elle posa une main sur la poitrine du vieil homme. Elle sentit alors les larmes monter à ses yeux. Personne ne prendra votre place, Félim. Personne ne peut vous remplacer. Et d'instinct, elle libéra le pouvoir du Saïman du corps de Félim. Le buste du druide s'arc-bouta, puis retomba sans bruit. Dans un souffle discret, les flots d'énergie se dispersèrent autour de lui. Adieu, Caron Casfad, fils de Catubatuos. Et merci. À quelques pas de là, le nain balbutia des paroles incompréhensibles. On avait l'impression qu'Aléa l'effrayait. Il se laissa tomber en arrière et recula lentement en rampant. Quelques instants plus tard, la jeune fille vint s'asseoir près de lui et lui adressa un sourire empli de tristesse.
« Le cavalier ?»
demanda-t-il, les yeux écarquillés.
« Il ne vous a pas ?»«
Il est mort, Mjoln. Je l'ai tué. » Le nain se frotta le visage.
« Et Galiad et Erwan ?»
« Je ne sais pas. Il... » La jeune fille fondit en larmes dans les bras du nain.
« Oh, Mjoln, qu'ai-je fait ?»
Ils restèrent 2 jours dans la cabane des Sylves. Quand le premier soir, Faith reprit enfin connaissance, Aléa et Mjoln pleurèrent de joie, puis l'obligèrent à se reposer pour la nuit. Le lendemain, ils lui racontèrent le combat de la veille. Les yeux rougis par le flot des larmes, Aléa lui avoua péniblement la mort de Félim, la disparition de Galiad et d'Erwan. Dans le silence de la forêt immense, les trois amis pleurèrent ensemble encore longtemps. Le soir, la barde avait retrouvé assez de force pour apaiser les sanglots de ses amis en jouant quelques chansons sur le mode du deuil. Ils s'endormirent d'un sommeil apaisé. Au matin du 3e jour, Mjoln revint en courant d'une expédition dans la forêt.
Les 3 druides et leur magistèle sont sur nos traces!
S'écria-t-il en entrant brusquement dans la cabane. Tu es sûr?
Oui, je les ai vus. Ils ne sont plus loin. Ils vont nous trouver. Que devons-nous faire, Aléa? Nous rendre?
La jeune fille se leva. Non, pas avant d'avoir retrouvé Galiad et Erwan. Après, nous aviserons. Partons. Une longue route nous attend.
Une longue route? Mais où allons-nous?
Là où se cache Maol Morda. Le nain écarquilla les yeux.
Tu es folle?
Tu n'es pas obligé de me suivre, cornemuseur, mais j'irai là-bas, car c'est la seule chance que j'ai de retrouver Erwan et son père. Je ne compte pas passer ma vie à fuir.
Nous fuyons pourtant devant les druides.
Je m'occuperai d'eux plus tard, répondit simplement Aléa en ramassant ses affaires. Face, où iras-tu maintenant?
Je n'ai pas encore vengé la mort de Tara et Kerry. Je te suis.
La jeune fille accueillit la nouvelle avec un sourire. Mjoln?
D'accord, d'accord. J'arrive, lanceuse de cailloux. Tu ne crois quand même pas que je vais repartir les nains dans les poches?
Il s'esclaffa.
T'as compris, hein? Les nains dans les poches?
Mjoln, je comprends toujours tes farces, tu sais?
Eh bien, tant mieux. En route!
Avant que de partir, les 3 compagnons offrirent une dernière larme au tombeau de Félim qu'ils laissaient derrière eux, au pied de la cabane des Sylves. Debout devant la butte de terre, Aléa passa sa main sur la broche que le druide lui avait offerte et qu'elle avait toujours sur elle. Le dragon de la Moïra. Elle jura pour elle-même qu'elle vengerait cette mort. Puis ils se mirent en route, aussi vite qu'ils purent, avant que les druides ne les retrouvent. Ils marchèrent toute la journée et une partie du soir, et quand ils installèrent leur campement, ils n'étaient plus très loin de la lisière de la forêt. Aléa laissa ses deux compagnons s'endormir et partit seule dans le cœur de Brocélia, cherchant le repos de son âme dans une promenade nocturne. Au fond d'elle, elle espérait sans doute voir les Sylves pour leur faire un dernier adieu. Mais aucun ne vint. Alors elle marcha entre les arbres, laissant ses pensées se perdre au cœur de la forêt. Il y avait quelque chose de nouveau au fond d'elle. Un lien. Le Saïman avait créé un lien. Un pont entre elle et le monde. Et ce faisant, il avait donné un sens à son surnom. La fille de la terre. Soudain, alors qu'elle marchait en rêvassant, elle aperçut une louve. Quelques pas à peine devant elle. Aléa s'immobilisa, perplexe. C'était la louve qu'elle avait vue en rêve, la même fourrure blanche, les mêmes yeux. L'animal fut aussi surpris qu'elle et resta dressé sur ses pattes, le regard ancré dans celui de la jeune fille. Elles restèrent un long moment à se dévisager l'une l'autre, sans bouger. Puis Aléa s'accroupit doucement, sans quitter la louve du regard. Le Saïman était en elle, et elle était le Saïman. Elle était le monde autour d'elle, et les arbres, et la louve. Elle tendit la main vers l'animal. Elle vit dans ses yeux toute l'histoire de la louve, et elle comprit. « Tiens, lui dit-elle, je suis comme toi. » La bête poussa un petit gémissement. Elle fit un pas en arrière, inclina la tête de côté. Puis elle avança vers la jeune fille lentement, s'arrêtant à chaque pas. Aléa lui sourit. « Je suis ta sœur, Imala. » La louve avança encore jusqu'à toucher sa main. Elle hésita un instant, puis d'un coup de langue, elle lécha la paume de la jeune fille. Enfin réunis, la louve et l'enfant.